Vous ne le savez peut-être pas, vous n'avez peut-être pas fait le compte dans vos agendas, mais nous sommes à, si j'ai bien compté, à 11 semaines de Pâques. Je vous propose donc de nous arrêter durant les 11 prochains dimanches, les 11 prochains messages sur la dernière semaine qu'a vécu Jésus, sur les événements qui ont précédé sa mort. J'avais commencé une série là-dessus il y a quelque temps déjà, ben avant le confinement. Je vous propose donc de la reprendre en l'étendant beaucoup plus. Et nous le ferons en passant principalement, nous arrêtant principalement dans l'évangile de Marc. Nous allons donc suivre Jésus de sa joyeuse entrée, entre guillemets, hein, dans Jérusalem, sous les cris d'allégresse de la foule, à son arrestation, son procès et sa crucifixion. Alors ces derniers jours sont très importants, car ce ne sont pas seulement les haines et les divisions qui vont se cristalliser sur la personne de Jésus, mais c'est également l'enseignement qu'il va donner à ses disciples et les gestes qu'il va poser qui vont prendre durant cette semaine un sens tout particulier. Tout se concentre ici et appelle à la réflexion. Réflexion sur Israël et son avenir immédiat, sur l'Église symbolisée par les apôtres, et sur le monde et ce qui doit advenir de celui-ci. Je vous invite donc à ouvrir la parole de Dieu dans l'Évangile de Marc, au chapitre 11, les versets 1 à 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem, près de Bethphagée et de Béthanie, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant: Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un âneau attaché sur lequel personne n'est encore monté. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi faites-vous cela, répondez: Le Seigneur en a besoin, et à l'instant, il le laissera venir ici. Les disciples partirent, ils trouvèrent l'âneau attaché dehors près d'une porte dans la rue, et ils le détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent: Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet âneau? Ils répondirent comme Jésus le leur avait dit, et on les laissa faire. Ils amenèrent l'âneau à Jésus, jetèrent leurs vêtements sur lui, et Jésus s'assit dessus. Beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur le chemin, et d'autres des branches qu'ils coupèrent dans les champs. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus entra à Jérusalem et se rendit au temple. Après avoir tout regardé autour de lui, comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Faut peut-être d'emblée préciser certains éléments qui vont nous permettre d'approcher cette partie du texte que nous venons de voir. Il s'est passé un certain nombre de choses avant que Jésus n'arrive pour cette dernière Pâque à Jérusalem, la troisième donc qu'il va passer dans la ville sainte. En fait, Jésus vient de Jéricho, nous dit Marc. Et il s'est passé un événement important à Jéricho. En l'occurrence, il a guéri un aveugle, un certain Bartimée, c'est-à-dire le fils de Timée. Il l'a guéri de sa cécité. Alors, cette guérison est importante car la guérison des aveugles, je pense que vous le savez comme moi, est un signe messianique. Et cette guérison est également importante parce qu'elle est importante pour les disciples. Elle va nous dire quelque chose de la façon dont les disciples vont vivre cette dernière venue, ils ne le savent pas, cette dernière venue à Jérusalem pour la Pâque. Quand on reprend le chapitre précédent et la guérison de cet aveugle, on se rend compte en fait que les 12, les disciples, se sont opposés à cette guérison. Ils ne voulaient pas que Jésus guérisse cet aveugle. Et on peut s'étonner. Alors, la première année de marche avec Jésus, on peut se dire, bon, ils n'ont pas l'habitude, leur maître est quelqu'un qui guérit les aveugles, les boiteux, les malentendants, les sourds, et tout ce que vous voulez. Mais là, nous sommes pendant la troisième année de leur marche avec lui, et ils ont encore cette attitude de s'opposer à cette guérison. Il y a un pourquoi à cette attitude. Pour les disciples, cette montée à Jérusalem, c'est une sorte de cortège royal et surtout triomphant, devant mener Jésus à son couronnement à Jérusalem. Et dans cette perspective-là, il est clair qu'on n'interrompt pas une procession royale, même pour guérir un malheureux aveugle. C'est de là aussi qu'on comprend mieux la demande des fils de Zébédée, Jacques et Jean, donc deux des disciples de Jésus, qu'ils ont faite un peu avant, de recevoir les places à la gauche et à la droite de Jésus, parce qu'ils sont sûrs, en fait, que ce Jésus sera couronné roi de Jérusalem à Jérusalem. Être à la gauche et à la droite du roi, vous l'aurez compris, aurait signifié pour eux des privilèges, de l'importance et surtout une primauté sur tous les autres sujets du royaume. On pourrait croire que seuls Jacques et Jean, puisque c'est eux qui font cette demande, un peu incongrue, ont cette vision des choses, mais en réalité, il n'en est rien. Les douze sont convaincus qu'ils sont en marche à la suite du roi d'Israël, l'héritier du trône de David, promis par les prophètes, est venu instaurer son royaume. Il faut donc comprendre de cette demande et de cette procession qu'ils considèrent comme royale, que les disciples n'avaient donc pas en vue le royaume de Dieu comme Jésus l'enseignait, mais bien le royaume d'Israël restauré après en avoir chassé les Romains. Jésus le Messie, oui, mais il doit s'asseoir sur le trône de David maintenant. Tout ce qui va se passer à partir de là va donc s'avérer terriblement important pour la compréhension des disciples, parce que Jésus, il lui reste très peu de temps pour bouger la compréhension des choses qu'ont ses disciples, et ça va s'avérer bien entendu important pour nous, pour que nous comprenions exactement ce qui se passe. Alors résumons déjà un petit peu tout ça. Nous sommes à 5 jours de la mort de Jésus, et les disciples sont toujours habités par une espérance strictement politique et terrestre, même s'il est plus que probable qu'ils considéraient que le règne de leur maître Jésus s'étendrait de Jérusalem à toutes les nations, comme promis par les prophéties, donc à toute la terre. Ça, c'est certain, ils y croient. En plus, quelle revanche sur l'Empire romain, en passant, et sur tous les potentats que cet empire avait placés dans leur pays. Donc, tout ce que je viens de vous résumer en quelques mots, s'est donc déroulé juste avant les événements que Marc va à présent relaté, et c'est de cet état d'esprit-là dont sont animés les disciples au moment où ils arrivent avec Jésus à Jérusalem. Alors imaginez, ça a dû être décuplé par l'accueil face à Jésus. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Les disciples, ils ont dû se dire, waouh, ça y est, c'est le jackpot. Alors nous sommes dimanche, et Marc nous dit que Jésus et les disciples approchent de Jérusalem, ils étaient proches de Bethphagé et de Béthanie. Alors ces deux villes, ou village, si on préfère, était un jet de pierre de Jérusalem, vraiment tout à côté, puisque l'une était environ à 2,5 km de la ville sainte, et l'autre à plus ou moins 4 km. On se souviendra également que Béthanie, dont le nom signifie « maison du pauvre ou de l'opprimé », est la ville où habitent Lazare, Marthe et Marie, donc des amis proches de Jésus. C'est chez eux que Jésus et les disciples logent lorsque ceux-ci se trouvent à Jérusalem ou dans les environs. C'est donc chez eux qu'il faut probablement situer Jésus et les douze lorsque Marc nous les fait voyager lors de cette dernière semaine entre Jérusalem et Béthanie. Quand le texte nous dit Jésus repartit, comme celui-ci qu'on vient de lire tout à l'heure, il repartit avec les douze vers Béthanie, ben il ne part pas dans la nature. Il va plus que probablement, même si le texte ne le dit pas, il va plus que probablement loger chez son ami Lazare, qu'il vient quelque part, relisez ça dans chapitre 11 de l'Évangile de Jean, qu'il vient de guérir, enfin plutôt de ressusciter. Il a guéri de la mort, si vous préférez, temporairement en tout cas. Quant à Bethphagé, qui peut se traduire de l'araméen par « maison des figues », c'est elle aussi une petite ville ou village se situant sous la route de Jérusalem en venant de Jéricho. Et c'est de là que Jésus vient. Alors, dernière petite précision que Marc nous donne d'entrée, c'est qu'au moment où le récit commence dans le chapitre 11 de l'évangile de Marc. Jésus et les disciples se trouvent à proximité du mont des Oliviers. Alors le mont des Oliviers, ça devrait vous parler, parce que c'est un endroit qui est omniprésent dans la vie de Jésus lorsqu'il est à Jérusalem. C'est l'endroit où il aime se retirer dans l'intimité avec son père pour prier, puisque au bas du mont des Oliviers se trouve le jardin de Gethsemane, qui signifie pressoir à huile, et c'est là aussi qu'on viendra l'arrêter pour le mener à la mort, vous le savez. Alors une petite carte peut-être pour situer tout ça, le mont des Oliviers, donc une colline à l'est de Jérusalem. Vous voyez, vous voyez deux ronds, il y a deux ronds, enfin deux vagues, deux très vagues ronds bleus, qui entoure des noms, excusez-moi, j'ai fait ce que je pouvais. Donc, l'un qui entoure le mont des Oliviers avec à son pied le jardin de Gethsémané, et puis l'autre rond qui entoure la porte dorée ou la porte d'or. Alors, cette porte est importante, comme toutes les portes, elle permet d'entrer quelque part, puisqu'elle, c'est la porte qui donne immédiatement sur le temple de Jérusalem, qui est le mont du temple avec le temple dessus. En rentrant par cette porte, vous tombez nez à nez, si je puis dire, avec le temple, sur le temple. Cette porte est importante, et ce mont des Oliviers aussi, parce que cette même porte principale, c'est par cette même porte principale que la gloire de Dieu, donc sa présence, quitte le temple de Jérusalem dans la vision du prophète Ézéchiel, qu'on peut lire en Ézéchiel 10. Et c'est sur le mont des Oliviers que cette même présence de Dieu s'arrête une dernière fois comme pour contempler la ville avant que le malheur prédit ne s'abatte sur elle. Et le malheur que prédit à ce moment-là Ézéchiel, c'est la destruction de la ville et du temple par les armées babyloniennes. Et on va lire ce texte du prophète Ézéchiel. « La gloire de l'Éternel est montée au-dessus du centre de la ville et s'est arrêtée sur la montagne qui se trouve à l'est de la ville. » Et cette montagne à l'est, c'est le mont des Oliviers. C'est donc là que la nuée, la gloire de Dieu s'arrête, comme pour contempler encore une dernière fois la ville qui sera bientôt détruite. Cette vision d'Ézéchiel était en fait aussi l'accomplissement à l'avance d'une prophétie annoncée par Jésus en Matthieu 23, que je vous lis. « Jérusalem, Jérusalem, toi qui tues les prophètes et qui lapides ceux qui te sont envoyés, combien de fois j'ai voulu rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'en avez pas voulu. Voici que votre maison vous sera laissée déserte, car je vous le dis, vous ne me verrez plus désormais, jusqu'à ce que vous disiez, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le temple de Jérusalem sera bel et bien détruit, ce qui aura pour conséquence que la présence de Dieu quittera Jérusalem. On est en face en fait d'une double vision, une qui est déjà passée, Ézéchiel, le temple a été détruit, il a été reconstruit ainsi que les murailles et la ville. Et ici, à travers cette référence, on peut dire que Jésus annonce lui aussi la destruction de la ville. Alors, cette annonce est évidemment un signe de la fracture entre Dieu et son peuple, la présence de Dieu qui se retire de son temple, c'est pas rien comme image. Mais ce n'est pas un signe d'abandon pour autant. Dieu demeurant fidèle à ses promesses envers ce peuple, on aura l'occasion d'en parler et d'y revenir plus en détail dans un prochain message. C'est sur ce même mont des Oliviers, rappelez-vous, que le Christ glorifié posera le pied pour défendre Israël lors de l'ultime bataille selon la prophétie du prophète Zacharie, que je vous lis en Zacharie 14. « L'Éternel sortira et combattra contre ces nations qui font le siège de Jérusalem. » Ça, c'est dans les temps à venir, les enfants. « Comme il combat le jour de la bataille, ses pieds se poseront ce jour-là sur le mont des Oliviers, qui est vis-à-vis de Jérusalem, du côté est. Le mont des Oliviers se fendra par le milieu, d'est en ouest, et une très grande vallée se formera. Une moitié de la montagne reculera vers le nord et une moitié vers le sud. » Donc, le retour de Jésus sur le mont des Oliviers, le jour de son retour en gloire, ça va faire du bruit. Ça ne va pas passer inaperçu. Alors, vous ne connaissez peut-être pas cette prophétie de Zacharie. Je m'avance, hein, mais je me dis qu'elle n'est peut-être pas trop ancrée en vous. Par contre, cette même prophétie, ce même retour de Jésus, a été prophétisée dans le Nouveau Testament aussi. Dans le livre des Actes, lorsque Jésus retourne vers son Père le jour de l'Ascension et que les disciples regardent le ciel et le voient disparaître, vous vous rappelez, il y a deux hommes habillés de blanc qui leur apparaissent et qui leur disent « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous à regarder le ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu aller au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la colline appelée le Mont des Oliviers, qui est près de Jérusalem à la distance d'un kilomètre environ. » Autrement dit, ils sont à nouveau sur le mont des Oliviers, c'est là que l'ascension se produit, et c'est là, disent les anges aux disciples, que reviendra le Christ. Il y a donc une confirmation dans le livre des Actes de la prophétie de Zacharie. Donc c'est donc de ce même mont des Oliviers que Jésus est remonté auprès de son Père, et sur cette même colline, dont une partie est aujourd'hui un cimetière, hein, c'est comme ça, « qu'il fera son retour sur terre pour sauver Israël. Alors on comprend peut-être mieux l'attachement de Jésus à cet endroit. Donc c'est tout cela qui va se jouer en fait durant cette dernière semaine. Car en tant que Messie, Jésus concentre toutes les promesses, mais aussi toutes les menaces de la part de ceux qui s'opposent à Dieu. Revenons à notre passage de Marc. À peine Jérusalem en vue, Jésus donne pour mission à deux de ses disciples d'aller dans le village voisin, probablement Bethphagée, celle plus proche, lui chercher un ânon, le petit d'une ânesse. Alors, il y a en cette mission un côté très solennel. C'est peut-être pas encore une fois le cas à première lecture, et pourtant. En effet, Jésus précise quelque chose de très très important. Un ânon attaché sur lequel personne n'est monté. C'est sans aucun doute une référence à l'humilité de Jésus. Hein. Les rois d'habitude s'achevaussent des chevaux, lui pas, il préfère un ânon. Mais c'est aussi une allusion probable à la loi de Moïse, d'après laquelle les animaux destinés à un usage sacré devaient être intacts et n'avoir jamais porté le joug, n'avoir jamais été montés par personne. On ne peut pas leur avoir mis du matériel, des charges sur le dos. Ils doivent être totalement intacts. On ne peut pas les avoir utilisés. En d'autres termes, ils doivent être sauvages. En tout cas, pas encore dressés, si vous préférez. Alors pourquoi est-ce que je dis tout ça? Parce que quand on y réfléchit, quel usage est le plus sacré? Est-il plus sacré que de porter celui que le monde attendait? Le roi des rois et le seigneur des seigneurs, mais aussi le sacrifice consacré et agréé par Dieu. Parce que cette notion de l'animal ne peut s'il est sacré, s'il est consacré, il ne peut pas avoir été monté ou utilisé d'une autre manière. On fait aussi référence aux animaux qui allaient être sacrifiés dans le temple, bien entendu. Et donc, faisant cette demande, Jésus, en fait, va rejoindre plutôt deux promesses très fortes, deux annonces prophétiques très fortes. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, hein, Zacharie 9:9, donc il annonce la venue du grand roi d'Israël, l'héritier de David, monté sur un ânon, j'y arriverai. Mais il y a aussi cette introduction du fait que Jésus est le sacrifice. Déjà. Alors, une question, c'est une question que moi je me suis posée, hein. Vous n'en voudrez pas si vous ne la posez pas, mais comment Jésus a-t-il pu monter sans encombre sur le dos d'un âne sauvage, quoi? Alors, j'ai parfois vu des émissions où il dressait des ânes, bon courage. Hein. Un âne qui n'a jamais été monté, vous essayez de monter dessus, bon courage, vraiment. Et là, ça ne pose de problème à personne, et en tout cas pas à Jésus. Alors comment est-ce qu'il a fait? La seule explication plausible, c'est que l'âne a reconnu son créateur, tout simplement. Enfin, ça, c'est mon approche. Hein. Que l'âne savait très bien qui était Jésus et que forcément un âne ne discute pas face à son créateur. Il n'y a que les hommes qui font ça, discuter avec Dieu. Alors il faut encore noter, bien entendu, la prescience de Jésus lors de cet épisode, lorsqu'il donne cette mission à deux de ses disciples. Il sait avec certitude ce que ces deux disciples vont trouver et comment il faudra qu'il justifie l'emprunt de l'animal pour qu'il puisse l'emmener sans encombre. Même s'il faut aussi souligner, c'est une explication aussi de la facilité avec laquelle tout ça s'est déroulé, il faut aussi relever tout de même qu'à la période de la Pâque, les habitants de Jérusalem et de la région étaient particulièrement hospitaliers et bienveillants envers ceux et celles qui montaient pour la fête à la ville sainte. Ils accueillaient les gens chez eux quand ils avaient besoin des choses, quand ils manquaient de certaines choses, ils leur donnaient, etc. Donc il y avait comme une très grande hospitalité qui régnait dans la région à la période de la Pâque. Ceci explique aussi peut-être cela. Mais au fait, je reviens à mon âne, pourquoi devait-il entrer dans la ville, dans Jérusalem, monté sur un ânon? Je l'ai dit, en règle générale, les rois, ça fait son entrée sur un cheval. Mais c'est pour accomplir cette prophétie de Zacharie, auquel je viens de faire allusion, Zacharie 9:9. Encore une fois, c'est une référence biblique facile à retenir. 9:9, ça n'est pas très compliqué à retenir. Réjouis-toi, fille de Sion, lance des acclamations, fille de Jérusalem. Voici ton roi qui vient à toi, il est juste et victorieux, Il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Jean et Matthieu, dans le récit qu'ils font de l'entrée de Jésus à Jérusalem, citent d'ailleurs tous les deux, partiellement, eux aussi, cette prophétie de Zacharie. C'est donc bien le roi de Jérusalem qui vient visiter sa ville pour la dernière fois. Dernière fois avant bien longtemps, puisque sa prochaine visite se fera lors de son retour en gloire. Il vient une dernière fois tenter de rassembler son peuple sous ses ailes, comme il l'a si bien dit, même s'il sait également que sa mort est programmée. Et il ne faut pas voir ici une contradiction, mais bien une ferme volonté d'accomplir toutes les prophéties jusqu'au bout, même celle-ci que je tire de l'évangile de Luc, et je vous la lis. Quand il approcha de la ville et qu'il la vit, Jésus pleura sur elle et dit, « Si seulement tu avais toi aussi reconnu aujourd'hui ce qui peut te donner la paix, mais maintenant cela est caché à tes yeux. Des jours viendront pour toi où tes ennemis t'entoureront d'ouvrages fortifiés, t'encercleront et te serreront de tous côtés. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où tu as été visité. » Donc il redit ici la destruction prochaine de la ville de Jérusalem et de son temple en l'an 70 par les armées romaines. Alors, le siège, il a duré 2 ans. Donc, pendant 2 ans, effectivement, la ville était entourée d'ouvrages romains fortifiés, des ouvrages de siège. Ça nous permet aussi de remettre en perspective les acclamations de la foule au début. Parce que quand on lit que ce passage-là, que nous avons lu, on peut se dire, ouais, c'est sympa, hein, la foule a reconnu. Non, ils n'ont rien reconnu du tout, en fait. Parce que c'est cette même foule qui le crucifiera, qui demandera sa crucifixion une semaine plus tard. Et puis si la ville est détruite, c'est que cette allégresse n'est qu'un feu de paille aussi. Il ne faut donc pas trop nous illusionner sur les acclamations de la foule entourant Jésus à son entrée dans Jérusalem. En effet, la ferveur messianique des Juifs était souvent à son comble lors de la fête de la Pâque, puisque c'était la plus importante, et que les Juifs du monde entier, connus en tout cas, montaient par milliers et milliers pour la Pâque à Jérusalem. La plupart du temps, autrement, Jérusalem, c'était une ville, mais enfin, il n'y avait pas tellement de monde que ça, pas tellement d'habitants à demeure. Par contre, à la période de Pâques, ça affluait de tous les côtés. Ce n'est pas pour rien non plus que, par exemple, la Pentecôte se passe à la Pentecôte, qui est aussi une très grande fête, où beaucoup de Juifs de la diaspora se rendaient à Jérusalem pour la fête. Autrement, ils restaient chez eux le reste du temps. Pâques était la fête où le peuple juif commémorait, vous le savez, la sortie de l'esclavage d'Égypte opéré par Dieu au travers d'immenses prodiges. Lorsqu'on se souvient du contexte d'occupation de toute la Palestine et de Jérusalem par les troupes romaines, on comprend d'autant plus la ferveur qui s'emparait des Juifs. Si quelque chose devait se passer, si Dieu devait montrer un signe, c'était forcément à la période de la Pâque. C'est-à-dire une période où tous les ans, à l'époque au 1er siècle, quasi tout le temps à la Pâque, il y avait des messies qui sortaient de terre. Il y en a une, enfin les noms ne me reviennent pas, enfin il y en a 2-3 qui me reviennent, je ne vais pas vous embêter avec ça, mais quasi toutes les semaines à cette période, il y avait un Messie. C'était vraiment une bouloire, Jérusalem à cette période. Mais donc il y a un moment où le salut, la délivrance d'Israël devait se manifester, s'il y avait un temps pour que Dieu fasse quelque chose, fasse un signe à son peuple, c'était bien entendu pendant la Pâque. Et la ferveur de cette Pâque-là était d'autant plus grande que ce n'était plus un roi juif ou asmonéen comme Hérode qui exerçait l'autorité à Jérusalem, mais Ponce Pilate, un procurateur romain, entre guillemets. C'était donc un Romain qui était assis sur le trône de Judée, même si ce n'était pas un trône. Donc ce fameux Jésus qu'ils ont acclamé et qu'ils acclament, maître faisant des miracles, ne pouvait donc qu'être ce fameux signe attendu. Il était le signe, pas spécialement le Messie, mais il était le signe que quelque chose allait se passer. Alors ce quelque chose va se passer, c'est la crucifixion, mais forcément, ce n'est pas ce qu'ils attendent. Il n'est donc pas étonnant que la foule ait eu à la bouche, lors de l'entrée de Jésus dans Jérusalem, ces paroles du psaume 118, parce qu'ils ne les ont pas inventées, ils les ont tirées du psaume 118, versets 25 à 27. « Éternel, accorde donc le salut. » Éternel, donne le succès, béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Écoutez, attachez la victime de la fête avec des liens aux cornes de l'autel. Deuxième partie de ce passage, de ce psaume, là, la foule ne l'a pas chanté. Hein. Même si on est à Pâques et qu'une victime fera ça, un animal va être sacrifié. Ce qui est, enfin, c'est paradoxal, mais les hommes sont paradoxaux, ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils font, de ce qu'ils disent la plupart du temps. Ce psaume parle d'accorder le salut, de demander à Dieu d'accorder son salut. C'est le sens du mot « Hosanna », en fait, que chante et que crie la foule. Ben, c'est exactement ce que Jésus est venu faire, en fait. Hein. C'est accorder le salut. C'est fou, hein, ça. Il demande le salut en l'acclamant, il est venu pour accorder le salut, et ils sont passés à côté. Et pour que ce salut devienne une réalité, il faudra effectivement que la victime soit attachée à l'autel. Alors, vous avez bien compris que dans ce cadre-ci, la victime, ce n'est pas un animal. Ce que ça annonce, c'est le sacrifice du Christ comme victime expiatoire, comme sacrifice pour notre salut. Car la fête dont parle ce psaume est bien entendu la Pâque, mais ça vous l'aviez sans doute deviné. Et c'est bien Jésus-Christ, notre Pâque, dira Paul, qui a été immolé. Ils avaient donc tout à portée de main, si je puis dire. La foule connaissait le psaume, puisqu'il le cite, mais il n'en avait pas compris le sens. Il n'avait pas compris que le sens était en train de se dérouler devant eux. Alors les seules personnes présentes ce jour-là auprès de Jésus, et ayant vraiment exprimé une forme de foi en lui, véritable, et en ce qu'il devait accomplir, même si on l'a vu dans le chef des disciples, c'est encore loin d'être clair, ben ce sont justement les disciples. Et ceux, parce qu'ils ne sont pas seuls, hein, en tout cas à ce moment-là, et ceux dont nous parle Jean dans son évangile, lorsqu'il relate la même scène, c'est intéressant de prendre ce texte en Jean 17, que je vous lis le passage. « Tous ceux qui étaient avec Jésus, quand il avait appelé Lazare à sortir du tombeau, et l'avait ressuscité, lui rendaient témoignage. C'est aussi la raison pour laquelle la foule vint à sa rencontre, parce qu'elle avait appris qu'il avait fait ce signe miraculeux, la résurrection de Lazare. On comprend donc mieux maintenant les motivations de la foule qui accueille Jésus à Jérusalem. Ce sont les miracles, encore et toujours les miracles. Ils ont vu de leurs yeux ou entendu parler de la résurrection de Lazare et certains autres ont assisté à la guérison de Bartimée, de l'aveugle Bartimée à Jéricho. Donc cette foule, elle a commencé à se concentrer, à grossir au fur et à mesure de ces deux événements. Et c'est pour ça qu'on retrouve tellement d'acclamations ce jour-là, lorsque Jésus entre à Jérusalem. Quand on lit le texte comme ça, on peut peut-être se dire que c'était des gens qui étaient là à Jérusalem, qui disaient « Oh tiens, Jésus, youpi, sois béni ben, !» Pas du tout. Hein. Cette foule, c'est en grande partie des gens qui suivent Jésus après la résurrection de Lazare et le miracle de la guérison de la cécité de Bartimée. Une autre preuve du peu d'implication réelle de ceux qui acclament Jésus, c'est que Marc va préciser que seuls les 12 vont retourner avec Jésus à Béthanie. Il arrive sous les acclamations de la foule, ils sont innombrables. Il retourne, lui et les 12 à Béthanie. Où sont les autres ? Disparus, de nouveau. S'ils avaient vraiment compris qui était Jésus, croyez-moi, ils ne l'auraient pas quitté d'une semaine. Ce qui signifie aussi que cette semaine va donc être marquée, mais ça nous le savons, hein, par l'abandon du plus grand nombre. Et même, à la fin, vous le savez aussi, l'abandon des disciples. Mais ça, Zacharie, toujours lui, l'avait annoncé. Frappe le berger et que les brebis soient dispersées. Et les brebis seront dispersées. Les brebis, en l'occurrence, étant ici les 12. C'est d'ailleurs Jésus qui va rappeler cette prophétie à ses disciples. On peut lire ça en Matthieu 26, en Marc 14, lorsqu'après avoir pris le repas de la Pâque avec eux, il se rendra pour la dernière fois à la montagne des Oliviers et leur annoncera qu'ils se disperseront après son arrestation. Jésus leur dira, vous allez vous disperser. Et il citera cette prophétie de Zacharie. Là, j'arrive à la fin du texte que nous avons lu. Jésus entre finalement dans Jérusalem et se dirige immédiatement vers le temple. On va donc lire ce texte de Marc. Jésus entra à Jérusalem et se rendit au temple après avoir tout regardé autour de lui. Comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Alors, il ne faudrait pas comprendre, pour donner suite à certaines traductions de ce passage, je pense à la traduction de Darby, qui au demeurant est une bonne traduction dans l'ensemble, hein, et à la Louis II, la 1911 ou la 1978. Il ne faut pas comprendre par ce texte que Jésus serait littéralement entré dans le temple. Le grec le laisse un peu supposer, mais ce n'est pas forcément pas possible. Donc Jésus s'est limité au parvis du temple. Il ne pouvait pas entrer dans le temple, parce qu'il n'était pas prêtre. Je parle du temple lui-même, hein, le lieu saint, le lieu très saint. Le lieu très saint encore moins, puisque ne pouvait y entrer que le grand prêtre, une fois par an. Donc Jésus, pratiquement, loi de Moïse en main, ne pouvait pas y entrer. Tout simplement donc parce qu'il n'était pas de la lignée d'Aaron et de la tribu de Lévi. Je rappelle que Jésus était de la tribu de Juda. Il n'était donc pas prêtre, il ne pouvait donc pas entrer dans le temple même. De plus, Jésus n'étant pas venu de son propre aveu pour abolir ou pire, désobéir à la loi de Moïse, on comprendrait mal qu'il ait enfreint cette règle absolue. Hein, rappelez-vous, ne croyez pas que je suis venu pour abolir la loi ou les prophètes, je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Et puis, il n'est pas entré non plus pour la simple raison que ce temple, à ce moment-là, ne représente absolument plus rien du tout. Il était venu, Jésus, c'est vrai, pour accomplir toute la loi, afin de pouvoir entrer dans le véritable sanctuaire, le véritable temple, pas celui fait de la main des hommes, le temple de Jérusalem donc, mais celui fait par la main de Dieu, dont le sanctuaire céleste même, où il entrera par sa mort avec son sang, étant à la fois sacrifice et sacrificateur. Et par la main, il donnera naissance à un nouvel ordre sacrificateur. Fini Aaron, fini la tribu de Lévi, ce sera l'ordre de Melchisédek, et donc la création, avec lui comme grand prêtre, avec Jésus comme grand prêtre, d'une nation de rois et de prêtres.
Nous.
En fait, il n'entre pas dans le temple car, ben, soyons clairs, hein, il devrait l'être, mais il n'est pas chez lui. Il devrait l'être. Hein. Il est Dieu, mais il n'est pas chez lui. C'est assez terrible. Hein. Mais ça, nous en parlerons la semaine prochaine. C'est donc dans la cour du temple réservée aux Juifs, voilà, voilà, que j'ai aussi entouré avec dextérité de ma main. Voilà. C'est le parvis, vous voyez, le parvis d'Israël. C'est donc là que Jésus s'est rendu pour, dit Marc, jeter un rapide coup d'œil. Et puis, il a décidé de retourner à Béthanie pour la nuit. Alors, pourquoi ce fut-il si rapide? Ben, tout simplement parce que, et Marc le dit aussi, vu l'heure tardive, l'activité du temple devait être réduite à sa plus simple expression. Il ne s'y passait plus grand-chose à cette heure-là. On était en fin d'après-midi. Il n'y avait donc plus grand-chose à y faire ou à y dire, ce qui ne sera pas le cas le lendemain matin. Mais ça, c'est pour la semaine prochaine. Que le Seigneur bénisse sa parole et qu'il vous bénisse. Amen.